Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Donc, comme je vous l'avais un petit peu indiqué hier soir, en conclusion de notre dernière session, j'aimerais qu'on explore un peu le sujet de la lignée de transmission et la relation à un ami spirituel, un maître, un gourou, et tous les épithètes que l'on peut trouver pour qualifier cette personne avec qui on débute et on poursuit une relation idéalement fructueuse sur notre chemin spirituel. Donc, épithète. Cécile, qu'est-ce qu'un épithète? Voilà. Par exemple, tu vas dire Dharmakaya, Mahamudra, Bouddha, ce sont des épithètes, c'est-à-dire que ce sont des mots qui prennent un angle différent sur une réalité commune. Et donc, effectivement, on peut parler aussi d'adjectifs, mais un adjectif, c'est plutôt un descriptif. Épithète, c'est plutôt une collection de mots qui apparaissent différents, mais parce qu'ils prennent un angle de traitement d'une réalité commune un peu différente. Donc on a des mots, et c'est ce qui fait la richesse d'un vocabulaire, la richesse d'une langue. C'est qu'on n'a pas trois mots. Par exemple, les Inuits, ils ont 51 mots différents pour parler de la neige. Hein? Les Tibétains ont une flopée de mots pour parler de l'esprit, des fonctions de l'esprit. Alors on pourrait dire, ah bah oui, mais entre le mental, la conscience, le terrain fondamental, j'ai combien d'esprit? Non, on parle du même. Mais on parle de différentes facettes, de différentes fonctions, de différents aspects, plutôt l'essence profonde ou la nature, le rayonnement, etc. Donc voilà, c'est ce qu'un épithète. Alors, est-ce que vous avez des réflexions déjà? Est-ce que on peut commencer par vous? Alors, vous en ligne, vous dans la salle, quand on parle de lignée de transmission et de relation à un maître, quel que soit le terme qu'on utilise, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce qu'il y a un sentiment positif ou négatif? Hier, je disais, il y a ceux qui sont dans l'adoration aveugle, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont ni Dieu ni maître. Et donc, peut-être entre les deux, trouver un moyen terme qui soit plus proche de la réalité et plus constructif. Donc voilà. N'oubliez pas que si vous voulez parler dans la salle, il faut prendre le bâton de palabre, comme en Afrique. On ne parle que si on a le bâton de palabre.
Je l'ai déjà. Je te le passe après. Oui, parce que je te remercie d'avoir proposé ce sujet qui n'est pas souvent abordé, il me semble. Les fois où moi j'ai été dans le centre d'enseignement, n'a pas été trop question de cela. Pourtant, c'est un peu une pierre d'achoppement me concernant. Et ceci dès la découverte du bouddhisme, lors d'une de mes toutes premières sessions d'enseignement avec un enseignant. À un moment donné, il a décrété que si on n'avait pas de maître, on n'allait rien réussir à faire et que juste de se référer aux textes ou de venir comme ça d'écouter des enseignements, ça n'allait pas aboutir. Et c'était très désespérant pour moi. Là, je fais un partage parce que je viens aussi d'un pays où il y avait un adage, la religion est l'opium du peuple, même si le bouddhisme n'est pas une religion pour moi. Voilà, de reconnaître un maître, des choses comme ça m'est vraiment intrinsèquement difficile. Et du coup, je te remercie de l'avoir proposé comme sujet. Et là, je partage avec l'Assemblée mes réflexions suite à ta demande de réfléchir. Déjà, comme tu le dis, dans le mot maître, pour moi, il y a toujours une deuxième personne. Il n'y a pas de maître sans élève. Mais on peut dire maître-élève, on peut dire maître-apprenti. Ce n'est pas la même chose pour moi, un élève et un apprenti. Maître-disciple, c'est encore différent. Il y a maître esclave. Et tout ça, rien que dans la langue française, dans la langue, les langues slaves que je connais, quand on parle de Dieu, on dit maître Dieu. Et donc, on appose à côté bah, l'humanité croyante. Donc, il y a toujours. Et du coup, pour moi, c'est presque plus la question de dans quelle position nous, on se met par rapport à ce maître, qu'on appelle maître. Est-ce qu'on est un apprenti? Est-ce qu'on est un élève? Est-ce qu'on est un esclave, etc. C'est ça qui est très important. Voilà, je vous donne ma. Tu demandais quel est votre propre. Moi, j'ai choisi ce qui m'a convenu, c'est la notion de maître-apprenti. Même d'ami spirituel, qui est une formulation que toi, tu proposes, qui me convient encore plus. Mais maître-apprenti, c'est. Pour moi, c'est comme un maître artisan, un chocolatier qui a juste mieux appris, qui s'est perfectionné plus que moi dans quelque chose que j'ai envie moi aussi de réaliser. Donc, c'est un peu comme Bouddha qui était une personne physique, n'était pas incarnation d'un esprit pur qui est venu juste. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quand même aussi cette question d'un élan émotionnel aussi qui existe. Je vous parlais le premier jour de Amma et je lis un livre. Je vois comment les gens ils sont juste éclairés par un élan très émotionnel et qui change leur vie. Et j'étais très réticente à cette chose, mais je l'éprouve un peu aussi. Et j'avoue que c'est quelque chose qui peut donner du courage. En fait, c'est une inspiration. C'est pas une dévotion du tout. J'ai juste un soutien émotionnel qui aide finalement et qui entretient l'aspiration. Et je finis tout cette longue palabre par une question, parce que toi, tu es peut-être la seule personne dans cette assemblée qui a expérimenté les deux versants. Tu as été disciple, apprenti, élève, que sais-je, esclave peut-être.
Parfois,
mais voilà.
C'est pas toujours désagréable d'ailleurs.
Mais tu es aussi devenu une personne, un ami spirituel et un maître. Et du coup, ma question est que tu partages avec nous. Est-ce que toi, tu as évolué? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que c'est toujours resté comme ça? Enfin, que tu nous partages aussi ton expérience parce que tu en as plus que nous. Et voilà.
Merci, merci. Je souligne ce que tu as dit qui est important finalement, qu'avant de parler du maître, on doit parler de l'autre personne, la personne qui est en face. Parce que en fait, c'est la personne qui va être en face qui va qualifier le maître. Bon, le maître en soi a sa qualification. En gros, si on s'en remet aux explications de Gampopa dans le Joyau au nom de la libération, très simple, le savoir et l'expérience, donc une bonne connaissance scriptuaire, les textes, etc., mais aussi une vraie réalisation intime du sens des textes, donc ce qu'on appelle la réalisation, l'ungto, c'est-à-dire la réalisation et le savoir scriptuaire, savoir et expérience. Associé indissociablement à la bienveillance, le souhait d'être d'une aide à celles et ceux qui souhaitent se mettre en chemin et découvrir aussi ce que l'on a découvert. Donc cette double qualification, je dirais, c'est ce qui définit vraiment un maître, d'une façon simple. Hein. C'est un homme, une femme, qui a un savoir, une expérience, qui n'est pas quelque chose d'une création spontanée, mais qui a été reçue d'une longue lignée qui remonte au Bouddha, parce que il y a dans la transmission du Dharma, il y a une sorte de, c'est stéréo. Il y a deux courants dans la transmission du Dharma. Il y a le courant du savoir, les mots, les concepts, les sutras, les shastras, les commentaires, etc. Et puis il y a la transmission de l'expérience. Et la transmission de l'expérience, c'est un peu mystérieux parce que la transmission du savoir, on sait. On lit des livres, on lit le Tripitaka, on lit tous les sutras et les commentaires, tous les textes qui sont disponibles dans la collection des enseignements bouddhistes. On peut faire aussi ça à l'université, on n'a pas forcément besoin d'aller dans un centre bouddhiste, on peut apprendre en ligne. Donc, mais le savoir et l'expérience sont deux choses très différentes. Le savoir crée une base sur laquelle on va pouvoir faire l'expérience. Il est nécessaire. Sinon, comme là dans la prière du Mahamudra qu'on récite le matin, il est dit par l'étude et la réflexion, le voile du manque de connaissances est évacué. Puis après, par les instructions orales, c'est-à-dire là la transmission de l'expérience, les voiles du doute, de l'incertitude, c'est-à-dire en fait, si on retourne l'expression, la certitude s'installe dans la transmission de la bénédiction, on peut appeler une bénédiction, une grâce. En tibétain, le mot jinlap, qu'on traduit par bénédiction, en fait, jinpa, c'est une générosité, lap, ce sont des vagues. Donc, c'est une ondée, des courants de générosité qui nous inondent et nous portent. Et on peut effectivement avoir un sentiment mêlé de gratitude, d'admiration, etc., mais qui ne sont pas égocentrés. Parce que l'égocentrisme conduit à l'adoration et au culte de la personnalité. On recherche un père idéal, une mère idéale, un amant idéal, une amante idéale, un père fouettard, une mère fouettarde, je sais pas quoi. Quelque chose qui va en quelque sorte conforter notre égocentrisme et ses névroses. Hein? Et c'est pour ça qu'il est important de peut-être, et je te remercie de ton intervention, de parler de la position du requérant. Parce que la position du requérant, éventuellement, enfin, comment dire pas, éventuellement, quoi, heureusement, elle va changer au fur et à mesure de la relation, mais elle commence forcément par un aspect très névrotique. Donc, la première rencontre avec un ami spirituel, c'est on va chercher des informations. On a besoin d'informations, on arrive à un nœud, un croisement des chemins, une volonté d'évolution, de transformation. On a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Et donc, on est à la recherche d'informations. Alors, on lit des livres, etc., parce que maintenant, c'est très largement disponible. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Si les livres étaient suffisants, il suffirait tous d'être bibliothécaire. Et puis, on serait réalisé. Hein. Donc, là, il y a moi, ça a été mon expérience. J'ai d'abord rencontré les livres, et puis après, j'ai compris qu'il fallait vraiment rencontrer une tradition vivante. Et donc, je suis parti à la recherche de tradition vivante. Et à l'époque, donc en 76, 1976, pas 1800, il n'y avait pas d'Internet, etc. C'était très difficile d'avoir des informations, quoi. Mais bon, la bonne fortune, mon karma, etc., m'ont orienté vers la gare des Eizi, où un ami de Paris passait devant la gare au moment où je sortais de la gare. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je cherche les Tibétains. Parce que bon, entre les Eizi et ce qui est maintenant Dakpo, hein, qui était juste une ferme, Londrevie, il y a bien 15 km, 20 km. Je n'ai aucune idée où ils étaient, quoi. Il dit, ah bah oui, on est au camping à côté, je t'emmène. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la Magendune. Les derniers 15 km ont été vraiment miraculeux. Donc, il y a une recherche, l'envie de rencontrer une tradition vivante parce que il y a la bénédiction. Et j'ai eu le privilège de rencontrer des grands lettrés, des académiques, et puis des êtres de grande réalisation, et puis des êtres qui avaient réuni les deux, à la fois le savoir intellectuel et la réalisation, qui sont très très rares, mais bon, il y en a quelques-uns. Et j'ai pu faire la différence entre quelqu'un qui transmet un savoir et quelqu'un qui exude une réalisation. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Alors, exuder, c'est peut-être du franglais, hein? Je m'excuse. Hein? C'est du franglais, non? Exuder, c'est-à-dire presque littéralement transpirer, quoi. C'est-à-dire qui rayonne ce que Trungpa Rinpoche appelle l'être authentique. Quand on rencontre quelqu'un qui rayonne cette parfaite adéquation entre son être, sa parole, son mode de vie et sa réalisation, on est impacté. On peut prétendre qu'on ne l'a pas vu et s'en aller en courant parce qu'en disant un peu comme le yoga, ça va nous coûter cher, Donc, il ne faut pas rester là. Et j'ai vu beaucoup, moi, de gens qui ne pouvaient pas rester, qui partaient en courant, quoi. J'ai un ami qui, depuis, a fait des retraites. On a fait des retraites ensemble. Lama Tsutrim le connaît très bien. La première fois qu'il a rencontré Gendun Rinpoche, il était, donc Gendun Rinpoche était dans une toute petite chambre avec son lit, siège de méditation, puis à côté, celui de son assistant, Lama Potse. Et puis, il y avait un petit placard. Et puis, la porte d'entrée. Et cet ami reçoit la bénédiction de Gendun Rinpoche et il me dit, j'ai eu l'impression que mes veines, mes veines du cœur, elles se débranchaient et pff, le sang giclait. Et il dit, je l'ai repoussé, il est tombé en arrière en roulant sur le lit en rigolant, et moi je suis sorti en courant, en ouvrant la porte et en entrant dans le placard. Hein? Parce que ça a été tellement fort que ça a été submergent et que là, tout le côté rationnel disparaît. Et c'est quelque part la transmission de la grâce, c'est émotionnel parce que ce n'est pas rationnel. Le rationnel, on peut s'arranger avec l'enseignement du Dharma, on peut le tortiller comme on veut, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Donc on peut s'en arranger. Le matérialisme spirituel, c'est de transformer la voie de libération en un outil convenable et agréable pour mon ego. Hein? On le façonne à mon intérêt, on ne se remet du pas en question. Là, cette bénédiction, elle nous prend totalement au dépourvu. Totalement au dépourvu, c'est la sandale de Tilopa qui frappe Naropa et qui enlève le dernier voile dans son chemin spirituel. Totalement inattendu. Et donc, ça peut se traduire par des pleurs, ça peut se traduire par une peur panique. Certains des enseignants que j'ai rencontrés étaient très impressionnants et j'étais toujours un peu sur la défensive parce que je ne savais pas s'il allait m'embrasser ou me couper la tête. C'était difficile à estimer. Donc, on est dans un état, j'étais dans un état d'incertitude, mais c'était un grand logicien, quelqu'un qui avait un immense savoir académique et en même temps qui était un être de très grande réalisation, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Kenpotsu Trimgyam Sorin Poche. Et nous avons participé, nous avons fait ensemble une aventure avec d'autres amis de 6 mois de retraite, études avec lui, et c'était vraiment une aventure, quoi. Parce qu'il nous attendait partout. Il y avait pas, on n'était pas dans un environnement sécurisé, dans le temple où on parlait du dharma, l'aventure, elle était partout. Tu faisais la vaisselle, il arrivait, il y a quelque chose qui se passait, etc. Bon, je pense qu'ici, vous connaissez un peu la musique, hein? Bon. Et donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité absolue qui tranche tous les bavardages, toutes les conventions, toutes les ronds de fesses, hein, on est poli, etc., etc. Il y a quelque chose qui est sans concession. Et donc, on a des réactions, mais qui sont les nôtres. Certains, ça va être, on va pleurer, ou on va avoir, je pense, une immense légèreté aussi par cette émotion. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui peut être dans ce moment-là, vraiment un moment, un goût, une saveur de la nature fondamentale de l'esprit. Évidemment, après ça, hop, on va refermer parce que nos habitudes font que bah, il faut qu'on garde un peu notre territoire parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai le souvenir d'un grand maître que j'avais très jeune voulu rencontrer, Chöden Rinpoche, qui vivait au Népal, qui est mort à 104 ans, quelque chose comme ça. Et bon, le premier livre que j'ai vu, il y avait Kalo Rinpoche et Chöden Rinpoche. J'avais vu Kalo Rinpoche, je dis, oh, il a l'air vieux, celui-là, il doit être mort. Je le verrai pas, mais par contre l'autre il est plus jeune, donc vraiment je vais rencontrer celui-là. Et en fait j'ai rencontré Kalo Rinpoche bien avant Chöden Rinpoche. Bon, j'arrive à Katmandou, on va à l'extérieur de Katmandou, il y a un lieu qui s'appelle Parping où il y a une statue de Vajrayogini, il y a une statue spontanée de Tara qui sort de la roche. Enfin c'est un lieu de grande bénédiction. Guru Rinpoche a beaucoup médité ici. Marpa a eu la révélation de sa nature essentielle par Vajrayogini qui a ouvert son torse, il lui a montré à l'intérieur tous les chakras, etc. Donc c'est un lieu très très fort. Et il y a la rumeur qui court, dit Chöden Rinpoche est là, il a un petit ermitage, il est là, il est là, il est là. Et donc on est là, on en profite, on monte tout de suite là-haut. Et les grilles étaient fermées avec des moines, enfin, ou des gens qui gardaient la porte, qui étaient assez, comment dire, revêches, pour pas laisser la foule des Tibétains qui voulaient rentrer, quoi. Et donc, nous, occidentaux, on a eu un passe, quoi. Donc, on est rentrés. Et on s'est assis dans la cour pour recevoir la bénédiction de Chattha Rinpoché. Il était dans un petit temple qui devait faire la moitié de ce temple, qui était plein à craquer avec des moines, avec des yogis, avec des Rinpoché, avec des hommes, des femmes. Et ils étaient en train de faire une sadhana, un rituel. Et à un moment donné, il y a la pause, il y a une petite pause très courte. Et là, l'assistant vient nous dire, en gros, il nous pousse dans la pièce. On est poussé dans cette pièce, on rentre dans cette pièce. On se prend l'énergie là de massive, presque palpable. On est poussé vers Chattha Rinpoché, qui était très impressionnant, avec une grande barbe blanche, et très sévère, etc. Il a un gros texte et boum, il nous assomme les uns après les autres avec son gros texte. Et hop, on nous pousse dehors. On jette une kata, une offrande, boum, et dehors. Et je me retrouve dehors dans la cour. Je suis assis et mon esprit ne peut plus fonctionner, ma conscience mentale ne peut plus fonctionner, c'est déconnecté. Donc je reste dans cet état de clarté, d'ouverture, avec quand même une petite inquiétude en me disant quand même, attends, il faut redémarrer le truc. Et mon esprit, c'était un peu comme une vieille bagnole qui essaye de démarrer, pa, 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 ça démarre pas, quoi. Et puis à un moment, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu veux rebrancher le mental alors que Chattha Rinpoché vient de t'assommer? Il vient d'assommer ton mental pour que tu puisses expérimenter la nature primordiale de ton esprit. Donc, je m'assois là, je ne sais pas, un temps, assez longtemps, parce qu'ils ont le temps de finir la pratique. Et donc, je les vois sortir du temple. Et donc, je vois Chattha Rinpoché qui sort, qui était un vieil homme à l'époque, donc qui marchait comme ça, comme un vieil homme. Et puis derrière, il y avait son shapshi, son assistant, qui était un peu comme Lama Purtse, un peu rigolard, quoi. Et puis il y avait l'angle de la maison. Moi j'étais assis ici. Chattha Rinpoché passe, il tourne et il vole l'escalier. Il monte pas l'escalier, il vole en haut de l'escalier. Moi je suis toujours dans mon. Et là son lama qui était derrière lui, il voit que je l'ai vu, il me regarde, il rigole puis il le mime. Il part en haut de l'escalier. Voilà, je suis encore resté un certain temps. Puis après, voilà, je suis revenu un peu à mes sens habituels et je suis reparti. Donc, quand on rencontre des êtres de cette authenticité, c'est à la fois effrayant et en même temps extrêmement attirant parce qu'on sait que c'est là que ça se passe. Quand j'ai rencontré Guénon Rinpoché, j'ai su que c'était là que ça se passait, que j'avais pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. Et puis après, confirmé par le karmapa, voilà, jusqu'à sa mort, profite de cette présence, c'est tellement rare. Donc, et cet être authentique, ce n'est pas le fruit du hasard. Lui-même a reçu les enseignements et il a eu aussi des maîtres qui ont passé, qui ont, en quelque sorte, qui l'ont branché sur le secteur. C'est un peu ça, hein. Il y a la centrale Dorje Chang, qui est la centrale solaire, et puis après, ça descend et ça allume tout le monde. Tilo, Naro, Marpa, Milam, etc., jusqu'à nos jours, jusqu'au grand maître vivant de nos jours. Et donc, on se connecte au secteur. Mais pour se connecter au secteur, il faut être sûr que notre installation électrique personnelle, elle peut tenir la charge. Donc, il y a un travail nécessaire à faire. Si on a des courts-circuits à l'intérieur de nous, c'est-à-dire des névroses et autres issues, comment dire, autres problèmes pas réglés avec notre papa ou notre maman, etc., la relation, elle va être vraiment compliquée. Donc la première rencontre avec l'ami spirituel, c'est, tu parlais donc de ce mot que tu trouves une bonne description de la relation. L'ami spirituel, c'est dans le cadre du Mahayana, donc le véhicule du Bodhisattva, de l'idéal du Bodhisattva. Le terme en tibétain, c'est Gewe Shenyen. Donc, c'est un mot assez long, Gewe Shenyen. Et donc, Nyen, c'est se rapprocher. Je sais pas, c'est exposer, montrer, enseigner. Et Gewa, c'est la vertu, mais c'est ce qui est juste, ce qui est en harmonie avec la nature fondamentale. D'accord? Ce qui est naturel au sens de naturel en relation avec la nature de l'esprit. Donc le Gewe Shenyen, c'est quelqu'un qui qui expose la manière de se relier à notre état naturel. Hein? Ça, c'est Gewe Shenyen, Kalyana Mitra en sanskrit, Gewe Shenyen. Et c'est la façon, donc, de la relation à l'ami spirituel dans l'environnement du Mahayana, dans l'environnement donc de l'idéal du Bodhisattva, c'est un homme, une femme qui a, comme tu l'as dit, de l'expérience, donc le savoir, mais aussi la réalisation, qui a intérêt, qui porte intérêt à la personne requérante et qui va évaluer aussi le sérieux de la requête. Traditionnellement, on dit il faut qu'il y ait une observation mutuelle du maître et du requérant de 3 ans. Pendant 3 ans, il faut vraiment regarder en privé, en public, etc., si la personne parle bien, mais n'agit pas forcément en accord avec ses paroles. Ou bien, moi j'ai eu le privilège de vivre très longtemps auprès de Gyanen Rinpoché, de le voir en public et en privé, il n'y avait pas de différence. C'était la même chose. Donc là, il y a une confiance qui naît parce que c'est un petit peu, comment dire, une validation par l'observation. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce travail de validation par l'observation? Parce qu'on n'est pas, on revient donc au requérant, on n'est pas dans une maturité suffisante. On est à la recherche de quelqu'un qui serait un sauveur ou qui serait quelqu'un qui va nous, parce qu'on a une carence affective, qui va nous donner de l'amour, qui va nous donner de la protection. On est à la recherche de quelque chose. Donc la première rencontre avec l'ami spirituel, la première phase avec l'ami spirituel, c'est sincèrement vouloir trouver des informations, mais aussi c'est être capable de mettre à nu tous ses plans et toutes ses habitudes névrotiques. C'est-à-dire de vraiment faire le tri, quoi. Parce que sinon, on n'entre pas dans une relation saine, on entre dans une codépendance. Hein? Si par exemple, on est attiré par un maître parce que tout le monde dit que c'est un maître. Et donc, c'est forcément un maître. Shama Rinpoché, en blaguant, disait au Tibet, plus le trône est haut, plus le brocard est riche et plus la bénédiction est sucrée, plus les gens pensent que le maître est une grande réalisation. Donc, on juge beaucoup le livre par la couverture. Parce que c'est de notre intérêt. Hein, ce que je disais de la Boétie, pourquoi on se soumet au tyran? Par peur, par abrutissement, ahurissement ou par intérêt. Donc, on cherche quelqu'un qui va en quelque sorte épouser nos névroses. Alors après, on se dit, ah oui, mais je suis baladé. Oui, mais bon, quelle était la base de l'engagement? Donc, il faut qu'il y ait en soi vraiment aussi la nécessité, la volonté de faire un travail d'introspection, une analyse, parce que dans la relation maître, s'il y a, comment dire, des résidus de névrose, le maître va être, non, si c'est un maître authentique, va être impitoyable sur ça. Il va pas nous laisser danser notre danse. Si c'est quelqu'un qui a l'apparence du maître pour attirer l'argent, le pouvoir ou le sexe, eh ben, il va utiliser, donc on est dans une dérive sectaire à ce moment-là, il ou elle, c'est plutôt il d'ailleurs, hein, pour être honnête, va utiliser la fragilité de la personne, avec des schémas de domination et de contrôle qui sont bien connus, bien répertoriés dans les mouvances sectaires. Mais ça se danse à deux, cette danse. Donc, c'est quand même une relation où il faut être relativement mûr, majeur, ou en tout cas être disposé à regarder en soi. Si le yoga qui fait s'élever quelque peur nous fait courir en dehors de la salle de yoga. Lorsque la relation au maître n'apporte pas ce que l'on est venu quémander, c'est-à-dire une attention, qu'on nous sorte de notre ordinaire pour dire qu'on est excellent, on est merveilleux. Si on est un peu caressé dans le sens du poil et que ça n'arrive pas, on souhaite, mais ça n'arrive pas, là, on peut être très en colère. Et puis, on s'en va, on casse tout, on ferme la porte violemment, on attaque au tribunal le maître pour manipulation, etc., etc. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, il faut une grande maturité pour s'engager sur un chemin spirituel. Donc, première rencontre avec l'ami spirituel, on vient chercher des informations et on sait que quelque part, on va avoir à faire face à nos névroses et à les soigner, à nous en libérer. Hein? Donc, ce n'est pas forcément toujours. Si on prend l'exemple de Milarepa, la rencontre avec Marpa, c'était pas. Ah oh oui, mon disciple favori, je t'attendais depuis tout le temps. Il s'est dit non, tiens, finis de labourer, puis quand tu auras fini, tu reviendras. Puis après, fais-moi une maison, démolis-la, refais-moi une maison, démolis-la, etc., etc. Jusqu'au moment où Milarepa est tellement épuisé qu'il est prêt à se suicider. Il va même jusqu'à faire un plan avec la femme de Marpa pour réussir à avoir les instructions par un disciple de Marpa. Enfin, il a tout essayé, quoi. Il a essayé le chantage, la manipulation, la tromperie, etc. Et ça a été, ces 10 ou 12 années de travail avec Marpa, ça a été déblayer son terrain névrotique. Et là, après, l'instruction peut passer parce que le terrain, il est clair. Si tu veux planter sur un terrain qui est plein de ronces et de cailloux, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas, tu peux jeter des graines, il n'y a rien qui va pousser. Il faut préparer le terrain, il faut enlever les cailloux, il faut enlever les ronces, il faut l'amender, etc., etc. Travail préliminaire. Donc, ça, c'est la première rencontre. Après, la deuxième, c'est, il y a beaucoup plus de tendresse. La deuxième phase, quand on a passé ce gros truc, on se joue plus, il n'y a pas de mascarade, on n'est pas là en train de chercher quelqu'un qui va conforter nos névroses. Du coup, la passation vraiment du savoir et de l'expérience peut se faire. Et la troisième phase, et donc là, on va étudier, réfléchir, méditer, on va faire notre travail. Et pas attendre que le travail soit fait pour nous. Donc, on va faire notre travail. Et la troisième phase, c'est que le gourou, quelque part, doit disparaître. La physicalité, la présence du gourou, il doit disparaître. Moi, je l'ai vécu, j'ai vécu plusieurs fois, puisque la mort du 16e Karmapa, ensuite la mort de Gendun Rinpoche, ensuite la mort de Shama Rinpoche. Moi, je faisais plus de funérailles que de mariages. Hein. À un moment donné. Et puis après, Lama Tenzang aussi, qui a été une grande inspiration, comme un grand exemple. Voilà. Et je me retrouve donc à un âge avancé en me disant, ils sont tous partis, quoi. Et finalement, quelque part, je ne sais pas comment dire ça sans que ça paraisse un peu terrible, mais tant mieux. Parce que si on reste toujours chez les parents, on reste toujours des enfants. Et donc, il faut. Et c'est Trungpa Rinpoche qui avait dit ça, et ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Quand le Karmapa est mort, il dit aujourd'hui, ma tête a été tranchée. Et une autre tête a poussé, qui est une tête de Karmapa. Donc, la troisième partie, c'est il faut sortir du giron familial. Et les gens me disaient ah oui, tu as perdu tes gourous. Je dis, non, non. Moi, ou quand Gendun Rinchen a été annoncé comme étant la réincarnation, on dit, ah, tu dois être content d'avoir retrouvé ton gourou. Je dis, non, je l'ai jamais perdu. Parce que ce lien, il s'est, en quelque sorte, c'est comme une teinture qui s'est mêlée à mon être. Hein, on ne peut pas ôter une teinture quand elle a été vraiment bien prise dans le tissu. Et donc, le maître n'est plus là, mais. Il est partout, en ce sens qu'il y a toujours, dans tous les détails de la vie quotidienne, il y a toujours un mot, il y a une parole, il y a une expérience. Je dis, je roule en voiture, j'écoute Cabrel, je me dis, tiens, je vais en parler, ça va faire un bon sujet de discussion. Ça, c'est la présence du maître, sous la forme de Francis Cabrel à travers la radio. Hein? Et donc, voilà. Et c'est le moment où on devient beaucoup plus autonome, on devient un adulte, on devient maître de son destin. Mais on a une immense gratitude parce qu'on a reçu tous les outils qui nous ont permis, on a eu l'assistance pour sortir de l'état de bébé dépendant infantile, névrosé, pour passer à l'état d'un étudiant sérieux et engagé à l'adulte, le jeune adulte qui a ses expériences et finalement un adulte mûr qui, là, à ce moment-là, peut commencer à faire la même chose et passer cette expérience. Mais il faut que, c'est pour ça que la lignée est indispensable. Parce que les gourous qui apparaissent comme les champignons après la pluie dans la forêt, il y en a des milliers, mais ils sont reliés à rien. Donc ils donnent leurs idées. Ça peut être très bien, hein, c'est des très belles idées, mais ça reste des idées. Il y a beaucoup de savoir, mais il n'y a pas ce courant, ce flot qui quand même est relié au Bouddha. Pour nous, la centrale primordial, c'est quand même le Bouddha, hein. Que ce soit le Bouddha Shakyamuni ou Vajradhara dans l'aspect du Bouddha éveil Dharmakaya, mode d'être absolu, ce courant-là, il a continué cette ligne, cette chose imperceptible mais puissante. Et les Tibétains, quand ils parlent, disaient, qui est ton maître? En Inde, c'est qui est ton gourou? Quelqu'un qui n'a pas de gourou, il n'existe pas. Ça n'a aucune valeur. Donc, voilà. Et merci de ton intervention parce que ça me permet de partir non pas du maître et de décrire le maître, etc., parce qu'on peut se perdre, mais de partir de la posture du requérant qui va en quelque sorte définir le maître, puisque c'est le requérant qui va voir le maître. Comme Gendong Rinpoché nous disait, vous n'avez pas à vous présenter comme des lamas, c'est les gens qui vont vous appeler lama. Parce qu'il voit en vous des qualités. Donc, c'est le regard des gens qui sont donc en recherche d'informations, d'assistance, etc., qui vont faire qu'ils vous appellent la main. Alors, qu'ils vous appellent la main ou. Moi, j'ai une amie, la main, qui dit oh, tu m'appelles comme tu veux, mais ne m'appelle pas en retard pour manger. Alors, est-ce que vous voyez dans ces trois phases-là où aller chercher l'information, ne pas avoir peur de mettre à plat ses névroses pour commencer à travailler et les dépasser. Ensuite, cette phase beaucoup plus harmonieuse de complicité, de grande bienveillance, de grande tendresse, où vraiment on apprend à grandir. Et puis, je ne sais pas si la troisième phase, vous l'avez touchée un petit peu, c'est-à-dire voilà, de sortir du giron. Et de faire son expérience. Est-ce que ça fait écho? Anne.
Ouais, moi, ce qui m'est apparu quand tu parlais, c'est que quand j'étais à la recherche d'un maître, en l'occurrence, c'était d'abord, je me disais, il faut que je trouve un maître de méditation. Vraiment, j'aimerais approfondir, j'aimerais faire un chemin là-dedans parce que vraiment, ça me correspond. Enfin, j'avais toute cette idée-là. Et puis en fait, en arrivant à Montchardon, en très très peu de temps, j'ai compris que Lama Tsung avait compris qui j'étais. Mais c'était vraiment quasi instantané. Il avait compris que j'étais un être en colère, que j'arrivais là avec pas mal de désespoir. Que, voilà. Et en même temps, il m'a montré qu'il avait des capacités juste d'alléger mon cœur d'une façon totalement incroyable. Voilà. Que je peux même pas raconter. Et donc là, j'ai dit, oulala, je suis où là? Et cette qualité qu'a le maître de voir en nous avec une clarté absolument inouïe, c'est ça qui a fait chez moi l'envie, qui a vraiment donné l'envie d'ouvrir et de dire, oui, tu m'as vu, c'est super. Il y a tellement peu de gens qui sont capables de voir tout ça et de comprendre et de m'aider. Et c'est ça, ce qui, pour moi, c'est ça le lien. C'est de dire, OK, je donne ma confiance parce que je vois vraiment qu'il y a une attention, une acuité, une vision, un bagage culturel et spirituel fort, riche, avec plein de chemins pour plein d'êtres. Mais dans ma spécificité, le maître voit en moi. Il voit clair, bien plus clair que moi. Et là, vraiment, il peut me donner sa médecine et je peux lui faire confiance. Donc, ça, pour moi, ça a été le point d'accroche. C'est dit, oh, quelle chance!
L'esprit s'est reconnu en lui-même de façon intransitive, directe, s'est reconnu en lui-même. Il y a aussi la reconnaissance de cette réalité qui est universelle. C'est-à-dire qu'on sait que tous les êtres qu'on va rencontrer, on le voit. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on parle pas aux nuages, on parle au ciel de chaque être. On parle à l'espace qui est derrière. On note les conditions atmosphériques et météorologiques particulières de chaque personne. Parce que c'est, je veux dire, quand le regard de l'individu est débarrassé des préoccupations égocentrées, l'écoute est absolue. Et donc, c'est, comme tu dis, ce qui est très rare, on se sent reçu, entendu, comprise. Et c'est exceptionnel parce que la plupart des gens, ils n'écoutent que pour répondre. Hein, les discussions de bistrot. Il y en a un qui dit, ah, bah, moi j'y ai dit, et puis il m'a dit, et l'autre il est patient parce qu'il a déjà sa réponse, donc il n'écoute pas ce que la personne est en train de raconter, il attend juste qu'il reprenne sa respiration pour pouvoir balancer son histoire. Et ça, c'est la relation quasiment tout le temps. Des gens en vraie écoute, ils sont rares. Et donc, quand un espace comme ça de profonde écoute, c'est ce que Thich Nhat Hanh appelait la profonde écoute, existe, bah, effectivement qu'on a envie d'être là. Parce qu'on... Mais alors, il faut rentrer là, pas simplement comme on entre à la déchetterie pour déballer nos poubelles. Hein? Bon, il y a un premier temps, on met à plat, mais après, on faut assez rapidement se prendre en charge et faire son recyclage. Hein? On n'est pas là pour ce... C'est pas un service de nettoyage. C'est une assistance, c'est une ouverture. Donc, quand on arrête de s'écouter soi-même, on peut entendre l'autre. Et quand on entend l'autre, on voit cette nature profonde parce qu'on l'a vue en nous-mêmes. Et c'est avec ça qu'on dialogue. C'est pour ça que c'est parfois émouvant, dérangeant, parce que on voit un être humain qui s'adresse à une partie de nous-mêmes avec laquelle on n'a quasiment aucun contact. Et moi, quand je m'adresse à des enfants, par exemple, ou même à Thérèse, mademoiselle Thérèse, en bas, hein, qui garde la maison, je ne parle pas aux enfants, je ne parle pas comme si c'était des nains ou des débiles. Hein, ils sont petits, donc ils sont bêtes. Non, je parle à leur nature de Bouddha. Et j'essaie de parler depuis, moi, ce que j'en ai compris ou réalisé, et d'avoir une communication à ce niveau-là. Parler de ciel à ciel, de cœur à cœur. Et dans cette conversation, les nuages disparaissent. Parce qu'ils n'ont pas de réalité profonde. Ils ont une réalité de surface. Et souvent, si l'on entretient une discussion trop mentale, trop rationnelle, trop logique, on parle beaucoup plus aux nuages qu'au ciel derrière. Et c'est vrai qu'avec Lama Tenzang, par exemple, il n'y avait pas besoin vraiment de parler beaucoup. Hein. Je me souviens, il aimait bien titiller, quoi. Je me souviens une fois, j'avais pas autant de barbe que là, mais j'avais un peu de barbe. Et puis, il commence à me blaguer en me disant, ah ouais, mais les moines, ils n'ont pas de barbe. Hein. C'est pas bien, un moine avec une barbe. Ça va pas. Hein. Et je te dis, mais Lama, dans la salle inférieure, dans le grand temple, il y a les 16 arahats. Ils sont tous barbus. Donc, est-ce que les arahats sont pas de bons moines, puisqu'ils sont tous barbus? Et là, ah, je l'avais pris à son jeu. Et puis j'avais un bouton sur le nez. Il me dit, oui, mais ils n'ont pas de bouton sur le nez. Et là, on se comprend avec Lama, tu vois, parce que il te cherche. Et s'il trouve ce qu'il, si tu veux, derrière tes nuages, il entre en contact. Moi, je l'ai vu faire des choses incroyables avec un visage de poker, de raconter des histoires incroyables pour voir où tu étais, pour voir qui tu étais. Et donc, une fois qu'il a vu que tu savais qui tu étais, et ben après, c'était la deuxième phase de la relation au maître qui est la générosité absolue, la bienveillance, l'amour, le partage, etc. Parce que on ne se joue plus de jeu. On est honnête, on est exposé. Avec Gyanu Rinpoche, moi j'étais élevé comme ça parce que Gyanu Rinpoche, il n'y a pas besoin d'essayer de cacher des choses. À un moment donné, j'étais fatigué du management du boss, qui était un poids quand même, un boulet pendant des années. Et puis j'ai décidé de me prendre des vacances. Donc je suis parti, j'ai loué un petit gîte en Bretagne, au bord de la mer, vers l'île de Bréhat. J'étais bien, j'étais tranquille. Et puis quand je reviens, la chose que je faisais là, tous les matins, c'était d'apporter le courrier à Gyanu Rinpoche, lui lire les lettres et prendre ses réponses et répondre aux gens. J'étais le seul qui faisait ça. Et quand je reviens, il me dit, ah, il y a des gens qui m'ont envoyé une carte postale, ils m'ont dit qu'ils t'ont vu au bord de la mer, tu étais content, tu mangeais des crustacés, tout ça. Et je suis reparti, je me dis, mais déjà première fois, mais qui c'est qui m'a balancé? Et deuxième, c'est mais personne, c'est moi qui lui fais son courrier, donc l'histoire de la carte postale qu'il a reçue, etc. Une autre fois, j'étais entre deux centres, centre, et puis j'étais en Suisse et je devais passer d'une vallée à l'autre. Et j'étais en voiture, j'avais pas envie d'être sur le train, passer dans le tunnel. J'ai dit, oh, le col est fermé, mais on va voir, je vais passer. Donc je monte jusqu'en haut et j'arrive en haut du col et là il y a un mur de 5 mètres de haut de neige qui n'est pas négociable, hein, même avec la meilleure des voitures. Donc je suis obligé de redescendre et de prendre le sacré train, quoi. Et là à ce moment-là, Yeshe après m'a rapporté ça, il me dit, ah oui, j'ai demandé à Rinpoché s'il savait où tu étais. Rinpoché dit, oui, il est dans la montagne, dans la neige, il n'aime pas trop ça, mais il va revenir bientôt. Donc... Il ne faisait pas ça pour que l'on dise, ah, mais quel Mahasiddha, etc. Mais moi, du coup, ça me détend. À un moment, j'avais envie d'avoir une moto. Donc, je m'achète une moto. Mais bien sûr, je ne vais pas le dire à Gyanu Rinpoche que j'avais acheté une moto. Donc, je la cachais derrière le centre de retraite. Il y avait un petit parking. Je rentrais par l'arrière, etc. Et puis, un jour, Rinpoche, il me dit, dans la conversation comme ça, ouais, c'est comme ta moto. Alors je dis, à nouveau, qui c'est qui m'a balancé?
Et
Puis il me dit, c'est un moyen de transport comme les autres. Si tu t'en sers pour aller dans les centres, que les gens dans les centres ne sont pas choqués qu'un moine roule sur une moto, il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais donc, vis-à-vis de lui, je savais que j'étais un livre ouvert. J'ai 1000 exemples. Que ce cachet était ridicule parce que ce cachet, c'était comme se cacher de son propre sa nature d'éveil et ça ne faisait que finalement créer une distance supplémentaire, un mensonge à moi-même. Donc, on est en détente, je suis ce que je suis. Et au mieux de mes capacités, je m'efforce d'appliquer les instructions, les enseignements, etc. Et donc, quand on est dans cette phase de relation, il n'y a plus de jeu névrotique. On n'est pas en train de se faire dorloter ou accepter, enfin je sais pas, on n'essaie pas de gagner quelque chose, on a vraiment envie d'aller au fond des choses. Et là, il y a énormément de tendresse, de bonté, de bienveillance. Gyanu Rinpoche, ce n'était pas quelqu'un qui montrait de façon très, comment dire, micromanagement, en disant, ah, attention, hein. Il te laissait faire tes erreurs. Il te lançait dans le grand bain, et puis voilà, tu nages. Et puis quand tu commençais à boire la tasse, trois fois, il te relevait un peu la tête hors de l'eau. Et c'était une façon, comment dire, respectueuse dans l'apprentissage de faire. Une façon de faire très respectueuse dans l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faisait confiance à notre sagesse innée qui, dans l'apprentissage, allait se révéler, être exposée. Et par contre, a posteriori, quand l'action avait été faite, il me dit, tiens, il y avait ça, t'as pas vu ça, puis ça, puis ça, ah ouais, ah ouais, ah ouais, tiens, j'ai raté là, j'ai manqué ça, etc. Là, j'étais un peu court sur ça, etc. Donc là, je faisais un débriefing et puis je repartais mieux armé pour la prochaine étape, quoi. Et donc, c'était très bien. Et la séparation avec le maître, puisqu'elle s'est passée à plusieurs reprises par la mort de ses maîtres, moi, je suis un peu celui qui reste un peu rentemplant, hein, je ne bouge pas trop. Et ça a été un peu traumatique de cette façon-là. Mais en même temps, ça a été c'était comment dire, la boucle devait se faire de cette façon-là, se boucler de cette façon-là. Parce que ça m'obligeait à être en première ligne. Sinon, on est toujours en deuxième ligne. On peut avoir tendance après à développer ce que j'appelle la maladie du la maladie. Hein, et on prend pas la responsabilité de ses actes et de ses paroles. On se cache derrière son petit doigt en disant c'est le lama, il l'a dit. Hein. Moi, si c'était moi, on ferait autrement. Donc ça, c'est une phase importante aussi dans la relation au maître. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui est heureux de ne plus jamais revoir ses patients. Sinon, c'est quelqu'un qui crée une clientèle pour s'acheter une voiture et un bateau, hein, en les soignant à moitié pour qu'ils reviennent. Donc, un bon médecin, un bon maître, c'est quelqu'un qui te pousse vers l'indépendance. J'ai une question, Sonia et Sylvia. Vas-y. C'est Sylvie d'ailleurs. Je m'excuse, hein, je n'ai pas mes lunettes, alors je vois à peu près.
Merci de lancer ce sujet. C'est passionnant, merci beaucoup. Je me lance sur un questionnement qui, en fait, qui me taraude depuis quelque temps. C'est-à-dire que pour moi, en fait, je suis pleinement d'accord avec toi quand tu disais que pour moi, le lama, il doit incarner ce qu'il dit, en fait. Je sais que personnellement, je suis très observatrice de ça, mais pas que pour les lamas d'ailleurs. En général, d'être assez sensible à ce que les actes et les paroles soient dans la même direction. J'essaye aussi de le faire pour moi. Après, ça m'a amené justement à un questionnement. Une fois, voilà, concrètement, je voulais faire une retraite dans un centre qui m'attirait quelque part. Mais en même temps, je sentais beaucoup d'austérité, de rigidité, qui m'était présentée comme quelque chose de, voilà, de sérieux, parce que maintenant, il faut s'engager, etc. Voilà. Et notamment dans ce centre, ce qui a été rédhibitoire pour moi, c'est que j'ai lu le règlement intérieur et j'ai vu que les personnes qui étaient fumeurs n'étaient pas acceptées. Et je suis pas fumeuse moi, hein. Donc ça me, dans l'absolu, ça me dérangeait pas pour moi. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc d'exclure des personnes en fait quoi. Alors j'en ai discuté avec un autre lama du coin qui m'a dit oui, c'est par rapport aux pratiques, etc. La fumée, ça peut perturber, tout ça, tout ça. Bon. J'ai dit oui, ok, je veux bien, mais pour moi, en tout cas, moi, ce qui me parle, c'est plutôt les notions de souplesse, de sourire aussi. Une fois, j'entendais dans un enseignement un truc qui m'avait bien parlé, où tu parlais de la générosité, et tu disais que le sourire, c'était la première des générosités. Donc, c'est vrai que moi, si je vois de la souplesse, du sourire, de l'ouverture, de la générosité, alors, je dis pas ça naïvement, hein. Je sais qu'il peut y avoir aussi des stratégies de séduction, mais voilà, de façon générale, ça me donne une espèce de, effectivement, d'énergie positive, de confiance. Et quand je vois trop de protocoles, de cadres, de rigueur, de voilà, d'exclusion comme ça, ben moi, ça me fait vraiment l'effet inverse, l'effet repoussoir, où je me dis là, c'est pas incarné en fait, il y a quelque chose qui pour moi me gêne. Je vais terminer là-dessus. Après, moi, je pense que ça m'a d'autant plus touché cette histoire par rapport aux fumeurs que, bah, après mon activité pro, j'accompagne des personnes qui ont des addictions. Et en fait, je me dis, si tout le monde a des addictions, en fait, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'attachement. C'est-à-dire que si je suis pas addict à un produit, je peux être addict à un grand maître. Si je suis pas Si je suis pas addict à la clope, je peux être addict aux antidépresseurs, aux anxiolytiques. Je suppose que dans ce centre, il y a potentiellement des gens qui sont peut-être sous médicaments et à qui on n'a rien dit, alors qu'on dit aux fumeurs, vous ne devez pas venir. Donc c'est vrai que tout ça, par rapport à l'histoire, voilà, d'être clair dans l'esprit aussi. Si je suis sous médicaments, je peux aussi ne pas être clair d'une certaine façon. Donc, je trouve, je sais pas, ça m'a, en tout cas, ça m'a pas donné confiance. Et du coup, je suis allée dans ce lieu alors qu'il est a priori assez, assez porteur. Et voilà. Et du coup, j'en ai discuté avec un lama qui m'a dit, ben, vas-y, tu feras ton expérience et puis tu verras. Mais en fait, j'ai eu l'impression que j'allais être maltraitée, en fait, dans ce centre par rapport à ce truc très rigoureux et très austère. Alors que moi, je suis plutôt quelqu'un qui essaye d'être l'aspect inverse, on va dire. Voilà, ça bon, alors je sais pas si c'est que je me ferme à des possibles ou si c'est que voilà, j'étais intéressée d'avoir ton avis là.
Merci,
Pas
merci.
codépendance.
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Il y a effectivement l'aspect rigoureux, etc., qui parfois est, comment dire, proposé dans la dynamique de groupe particulier. La dynamique. Chaque communauté a une dynamique particulière. Hein? Je pense que aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le bien vivre ensemble et l'harmonie. Par exemple, chez nous, on ne met pas d'encens, enfin chez nous en Virginie, dans le temple, on ne brûle pas d'encens parce qu'il y a des gens qui sont hypersensibles à l'encens. Hein? Donc, en fait, on a réduit des choses en fonction de certaines personnes qui sont là. Et l'esprit derrière tout ça, c'est... Est-ce qu'on rend hommage au Bouddha en faisant des volutes de fumée qui vont nuire à la santé de certaines personnes? Ou est-ce qu'il est préférable de témoigner de l'écoute, de l'attention et de la compassion à une personne ou un groupe de personnes qui sont sensibles, allergiques même, au parfum, aux senteurs, au parfum, et donc à l'encens, parce qu'on doit honorer le Bouddha. Shantideva disait... Qu'est-ce que cette attitude qui consiste à ériger des autels et faire des offrandes somptueuses pour les Bouddhas et traiter les gens avec mépris et dédain? Donc déjà, c'était déjà à l'époque de Shantideva, c'était déjà une question. Maintenant, on juge de la santé d'une démocratie par l'épaisseur de son code pénal. D'accord? Plus le code pénal est épais, plus la société est malade. Plus il est simple, on pourrait réduire par exemple les évangiles à aimez-vous les uns les autres, faites passer le message. Voilà, en gros. Mais après, il a fallu, et c'est vrai pour le bouddhisme, il a fallu, comment dire, mettre en place des choses différentes. Au début de la première vague de la communauté du Bouddha, qui était déjà des ascètes qui étaient déjà très engagés, qui étaient des contemporains du Bouddha, ces gens n'avaient aucun problème. Donc, il y avait absolument pas de discipline. Enfin, il n'y avait pas de, comment dire, de règlement intérieur. Il n'y avait pas de règlement intérieur. Le Bouddha, quand quelqu'un demandait à rentrer dans la Sangha, il disait, Ehipa Sikku, viens et juge par toi-même. Fais ta propre expérience. Et on entrait dans la communauté. Il y avait un respect des aînés naturel parce qu'ils avaient de l'expérience, etc. Les cadets apprenaient des aînés, ils les aidaient dans les tâches que les aînés ne pouvaient plus faire, etc., etc. Et ça a duré un certain temps jusqu'à l'arrivée des cinq canailles. Les cinq moines, on l'appelle les naughty monks, je ne sais pas comment on dit en français, naughty, c'est canaille, des voyous, quoi. Les cinq voyous. Il y a cinq voyous qui sont arrivés et qui ont commencé à faire pique-pendre. Et donc, à chaque fois, ça revenait aux oreilles du Bouddha, et le Bouddha disait, bon, dans ce cas-là, il faut faire comme ci et pas comme ça. Et puis après, ils trouvaient des trucs, mais bon, ils se battaient les uns les autres, enfin, c'était un truc. Donc on peut dire maintenant le Vinaya est très épais grâce à ces cinq canailles, merci beaucoup, parce qu'on a perdu simplement le sens naturel et que la discipline s'est imposée parce que le but du Vinaya, le but de Vinaya veut dire pacifier, discipliner. Ça veut dire discipliner le chaos des émotions perturbatrices. Et si on n'y arrive pas de l'intérieur par sa propre sagesse, ou sa propre discipline, eh bien, pour entrer dans cette communauté, on doit suivre un certain nombre de règles qui sont très précises, hein. Quand on prend la pleine ordination, c'est plus de 200 vœux, c'est très, très codé. Donc, quand on arrive dans un centre, il y a une dynamique de groupe et un modus vivendi, si tu veux. C'est ça. Effectivement, les gens sont peut-être, certaines personnes sont très, comment dire, moi je le suis, hein, très sensible à l'odeur du tabac. Même une personne qui a fumé et qui ne fume pas, je sens le tabac sur les vêtements de cette personne, sur l'haleine de cette personne, etc. Et il y a quelque chose, je trouve, pour moi, très toxique. Donc, que l'on dise, OK, pour bien vivre ensemble, évitons de fumer dans l'enceinte que l'on a déterminée comme étant ce lieu où nous allons vivre ensemble. Ça fait appel au bon sens et à la bienveillance des uns et des autres. Hein? C'est un rappel que nous vivons ensemble et nous essayons de vivre de façon le plus harmonieuse possible. Maintenant, ça peut s'étendre à un respect de l'environnement, à peut-être être végétarien, à recycler correctement, à faire le ménage quand on quitte sa chambre. Toutes des règles qui, à la limite, ne devraient pas exister puisqu'elles coulent de source. Bah, à l'évidence, on devrait le faire. Mais si on ne le fait pas, pour favoriser l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est aussi créer les conditions de la paix, et la paix, on peut avoir l'esprit qui s'oppose, et ensuite, on peut avoir l'esprit qui se reconnaît. Donc, c'est important, là. La base vraiment de tout ça, c'est quand même une conduite qui soit, une conduite, un mode de vie ensemble qui soit harmonieux. Alors après, on peut mettre l'accent sur la responsabilité ma mature et conseiller ou de donner des directions, ou on peut donner des directives. Ça dépend. Ça dépend un peu des dynamiques et des groupes. Et après, à chacun de choisir là où il veut atterrir. Mais je pense que la discipline, l'éthique, quel que soit le nom qu'on lui donne, elle vient. Idéalement, elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a un sens de. Par exemple, quand on étudie dans l'Abhidharma les 51 facteurs mentaux, il y a une liste on va dire, de qualités positives et on a une liste 11, pour faire simple, et 26 pour de réactions émotionnelles perturbées, etc., etc. Pour bien les discerner, pour les reconnaître et pouvoir les transformer. Et dans les 11 qualités ou les 11 réactions vertueuses, il y a ce qui, à mon sens, est vraiment fondamental pour l'éthique, par exemple, un sens de l'appropriation. Qu'est-ce qui est approprié? Hein? Dans tel contexte, comment se comporter? Un sens un petit peu de la honte ou de la gêne que l'on pourrait avoir à être une nuisance ou à déranger une harmonie existante. Donc ça, c'est une qualité qui prend en compte les besoins des autres et qui essaye de répondre à ces besoins en disciplinant son sentiment de liberté égocentrée. Je fais ce que je veux, en gros, être un enfant gâté. Hein? Mais idéalement, ça vient de l'intérieur. Je me souviens quand j'étais gamin, à un moment, je sais pas, on avait fait des trucs, enfin bref, trucs de gamin. Et mon père, il rentre du travail, il est fatigué, puis il me dit, mais vous voulez un boxeur? C'est ça que vous voulez? Il vous fout une trompe? Et donc, il nous montrait que notre attitude, elle était vraiment lourde, quoi. Et il dit, je vais être obligé, je suis l'autorité, je suis le père, je vais être obligé de faire quelque chose. Donc, moi, j'étais éduqué comme ça, dans une sorte de prise de conscience. Quand j'avais fait un truc de travers et j'allais voir mon père pour m'excuser, etc., ensuite, il me parlait pas. Il avait cette expression, il me dit, t'as chié dans mes bottes. Donc, il me fallait au moins 15 jours de rédemption. Et il fallait vraiment que je fasse un effort pour qu'on reprenne la conversation. Mais bon, il aurait pu être le père Fouettard. Hein? Bon, je suis le père, je te fous une trompe et puis voilà. Et quelque part, moi, j'aurais préféré. Parce qu'au moins, comme ça, hop, c'était réglé. Tandis que là, il fallait que je fasse l'effort de dire, ouais, vraiment, j'ai déconné, je suis désolé. Et de faire un effort de reprendre la conversation normale, saine, fondamentale. Et comme à l'époque du Bouddha, jusqu'aux cinq racailles, tout allait bien. Et puis après, bah, finalement, les règles se sont empilées les unes sur les autres au fur et à mesure des générations. Et puis il y a des règles qui sont plus du tout appropriées maintenant parce qu'elles étaient circonstancielles. Bon, bah, elles restent dans la tradition, mais Thich Nhat Hanh disait peut-être qu'il faudrait faire une relecture de toutes ces règles, et certaines des règles secondaires de discipline sont peut-être pas nécessaires dans le contexte moderne. Et peut-être que d'autres choses vont s'ajouter qui sont relevantes. Oui?
Oui. Je voulais revenir à la relation au maître, en fait. Et j'ai un peu une double question. La première, c'est est-ce que donc, dans votre cas, vous étiez constamment avec votre maître et jour après jour, il y a le rappel, en fait. Est-ce que vous pensez qu'une relation maître à distance où on est sur Internet une fois par mois, peut avoir le même rôle que ce que vous avez vécu. Ça, c'est la première partie. On va dire c'est la première partie et puis en fonction de la réponse, on verra la deuxième partie.
Ok. Bah écoute, le fait, ce que je disais à propos, par exemple, hier, du mythe autour de la retraite de 3 ans. On n'est pas en retraite de 3 ans. On est dans une enceinte pendant 3 ans et il y a des moments où on est ailleurs. Notre esprit vagabonde, on rêve, etc. Donc, être toujours avec le maître ne veut pas dire qu'on est toujours avec le maître. Il y a eu des gros moments où moi, je faisais des détours pour ne pas passer devant la fenêtre de Gyanen Rinpoche. Hein? Quand j'allais d'un point A à un point B dans le monastère, et comme il était au centre et il était assis en méditation devant sa fenêtre, il voyait tout et tout le monde passait, moi, je faisais des grands détours pour ne pas le voir. Parce que... Enfin, ça peut paraître paradoxal, mais la rencontre avec lui, c'était très douloureux parfois. On avait le sentiment d'être au tribunal devant un juge qui en ratait pas une, et donc on essayait de partir. Donc, en ces moments-là, j'étais pas avec le maître. À la limite, j'aurais été loin du maître et j'aurais pensé avec dévotion, admiration à son enseignement et à sa présence, j'aurais eu plus de dévotion que dans ces moments où j'essayais, moi, de faire le détour pour ne pas le rencontrer. Et je me souviens, il y a eu un passage comme ça pendant plusieurs semaines, où vraiment, le fait d'être confronté à cet être authentique me renvoyait tellement à moi-même que c'était intolérable. Hein, c'est Cocteau qui disait, le miroir devrait réfléchir avant de réfléchir. Hein? Donc, c'était trop, la confrontation de moi dans ce miroir était tellement douloureuse que j'évitais de le voir. Et à un moment donné, il demande à Yeshe, il dit, mais il est où, Tsoni? Je ne l'ai pas vu depuis un bout de temps, dis-lui que j'aimerais bien lui parler. Donc, bah là, on est convié, donc on est obligé d'y aller, hein, il n'y a pas le choix. Et là, alors, je frappe à la porte, et puis, oui, entrez, j'entre, je m'assois, et puis... Il me regarde comme ça, Lama Gendu, il avait ses lunettes, il récitait ses textes, puis il te regardait comme ça, au-dessus des lunettes. Il me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, vous avez demandé à me voir. Oh, ben non. Ben, tiens, pendant que tu es là. Bam, bam, bam. Et donc, il y a un proverbe chez les Tibétains qui dit, trop près du maître, on brûle. Trop loin, on gèle. Et donc, il y a une bonne distance à trouver. Il y a des moments où la confrontation avec ce miroir qui laisse rien passer, on pourrait presque penser que c'est vraiment un être vicieux. On pourrait presque penser qu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour, parce que comme un miroir, le miroir renvoie et il n'a absolument aucun... sentiment ou intérêt pour toi, ce que tu penses, de ce que tu vois. On a envie d'être ailleurs. Et donc, comme là, on a envie d'être ailleurs, on interrompt le cours de cette ouverture, de cette rencontre des esprits, parce que c'est par là qu'on arrive à réaliser la nature de notre esprit. Et donc, finalement, il est préférable d'être ailleurs. C'est pour ça que, finalement, je trouve que c'est une bonne solution que d'entamer une relation à un ami spirituel avec le courage de dire, bon, il va falloir que je passe quand même sérieusement au travers d'un certain nombre de névroses pour que le filtrage se lève et que vraiment la relation puisse se passer. Donc, on commence à faire ça. Donc, on se voit régulièrement. On reçoit des instructions. Quand on a reçu les instructions, on se retire et on les met en pratique. Gyanon Rinpoché disait, ne venez pas me voir avant que vous ayez quelques expériences sur les pratiques que je vous ai recommandé de faire. Sinon, on vient pour faire de la négociation. Ouais, ben là, j'ai commencé un peu, mais j'y arrive pas, c'est dur, il n'y a rien qui se passe, etc. Donc, moi, j'ai plutôt une tendance à être à l'écoute, à dire, bon, ben attends, on va essayer d'aménager, etc., etc. D'autres vont dire, mais qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Si tu reviens là, pourquoi? Hein? Donc, on doit se retirer. Et moi, j'ai un de mes amis, étudiants, je ne sais pas quel nom leur donner, disciple, qui, il y a 10 ans ou 15 ans, il me dit, qu'est-ce que je devrais faire? J'ai dit, tu es jeune, tu as la forme, commence les préliminaires, prosternation, je donne les explications, etc. Et je vois qu'il n'est pas vraiment ravi, quoi. Lui, il voulait faire du Dzogchen, du Mahabhudra, je ne sais pas quoi, il voulait la cerise sur le gâteau avant d'avoir même commandé la farine. Donc, l'année d'après, je le revois, puis il me dit, bon, alors, quelle pratique? Je dis, mais je t'ai déjà dit, les prosternations. Ah ouais, mais... Et ça a mis 5 ans. Au bout de 5 ans, alors il a fait plein de trucs entre-temps. Il s'est promené un peu dans le parc d'attractions du Dharma. Et puis au bout de 5 ans, il m'a dit, ouais, j'ai vraiment compris, là, ça y est, je fais les préliminaires, j'y vais à fond, quoi. Et puis là, il a mis tout ce qu'il avait. Pourtant, c'est un père de famille, il a une entreprise. Enfin bon, c'est pas un gars non plus qui vit de la charité publique. Hein. Il travaille, il a beaucoup de choses à faire. Mais il a trouvé le temps. C'est un type qui a une entreprise. Il prend 3 mois par an pour faire des retraites. Bon, il a trouvé une épouse qui est d'accord avec ça. Quelque part, elle est tranquille, elle est toute seule, elle lui fout la paix un peu aussi. Mais bref. Et là, il a presque fini. Là, il finit le Guru Yoga en ce moment. Mais je le vois une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et quand il a besoin, même, il vient aux États-Unis et il reste 3 mois. Une fois, il reste 6 mois en retraite chez nous. Donc là, et je ne le vois pas tous les jours. Hein. Il est en retraite, je le vois une fois par semaine pendant 1 heure ou 2. On fait le point sur sa pratique, etc. Puis il continue. Après, c'est à toi de faire le boulot, quoi. Donc, je pense qu'une fois que le... Ce qui est important, c'est que l'accroche, l'amarrage soit bien fait, qu'on puisse communiquer, alors de vive voix quand on est dans le même espace-temps, ou bien par WhatsApp, FaceTime, enfin peu importe, on peut. Moi, il y a beaucoup de gens avec qui je suis en échange assez régulier sur leur pratique, alors qu'on vit dans un espace-temps complètement différent. Et ce qui importe, c'est que l'amarrage ait bien commencé, que la confiance soit établie. Des deux côtés, et puis que la passation des informations et la mise en application des informations reçues se passe bien. Et après, bah, quand la mise en application se passe bien, il y a des expériences, il y a des choses qui apparaissent, et on continue de pratiquer, mais peut-être à un moment, on a besoin d'avoir une sorte de retour, et on peut avoir là un échange qui prend pas... Pour les gens qui pratiquent, bah, en une demi-heure, on a fait le tour. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est t'es sur la bonne voie, continue. Ou bien là, faut corriger un peu le tir. Les gens qui pratiquent pas, ça prend beaucoup plus de temps. Hein. Il faut des heures et des heures. Moi, j'ai fait des entretiens parfois 3 heures. Une personne, je me souviens, elle vient me voir et on parle 2 heures, je sais plus, 3 heures, de tout et de rien. J'ai beaucoup de mal à dire non et à arrêter. Alors donc, ça pouvait durer toute la nuit. Et puis, je lui dis, mais fondamentalement, tu as un problème vraiment important à régler et moi, je ne peux pas t'aider sur ce plan-là. Je recommande donc d'aller voir une amie psychanalyste à Clermont-Ferrand. Et donc, elle dit, ah bah, merci, je vais faire ça. Donc, elle va voir cette amie psychanalyste. Et puis, au bout de 3 mois, je la vois revenir, qui demande un entretien. Je dis, mais pourquoi tu reviens? Ça n'allait pas avec cette femme? Si, si, c'est bien, mais toi, tu es gratuit. Au moins, elle était honnête. Je coûte cher, moins cher qu'un psy. Donc, là, effectivement, ça ne sert à rien d'être sur les genoux du lama. Je disais aux gens, voilà, il y a 500 personnes dans la salle, le lama a 2 genoux. Vous pouvez pas, tout le monde ne peut pas tenir dessus. Donc, quand l'amarrage s'est bien fait, que l'on a reçu les instructions et que l'on a comment dire, l'allant pour les mettre en pratique, on n'a pas besoin d'être avec l'ami spirituel tout le temps. C'est presque même préférable. Parce qu'après, on risque en fait de se perdre dans les détails de l'humanité de l'ami spirituel. Hein, on l'a vu, il se gratte le nez, ou il aime bien manger les yaourts, etc. Et on s'attache à ces détails. Et du coup, c'est un petit peu, comment dire, quand on est amoureux, puis après on vit ensemble. Il y a quand même un changement, quoi. Les couvercles des toilettes et les brosses à dents, ça tue l'amour des fois. Et la relation. Et il faut faire le quotidien est usant et il faut vraiment travailler beaucoup pour pouvoir vivre ensemble et continuer à être compagnon de route aimant. Là, c'est la même chose. Moi, je crois pas que ce soit une bonne chose de vivre en permanence avec l'ami spirituel. Et aussi, je crois pas que c'est un manque que d'avoir des contacts épisodiques. Directement ou par les ondes, pour autant que l'amarrage est bien fait, que le travail est compris et que l'effort est lancé, les ajustements se feront en très peu de temps. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, est-ce que ça amène la deuxième question?
Oui, en fait, enfin, c'est double. En fait, comme vous parliez des maîtres que vous avez vus en Inde, il y a une expérience qui se fait en fait auprès du maître qui est plus difficile à reproduire chez soi et à distance aussi. Et donc, la présence du maître et la communication avec le maître, même au jour le jour, va rappeler à l'expérience et va rappeler à la pratique d'une façon beaucoup plus insistante que quand on est chez soi et qu'on se laisse transporter par les problèmes de tous les jours et qu'on oublie ce rappel, en fait. Donc,
C'est
c'était
vrai.
ça aussi qui venait à ma question ma première question, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, comment dire? Alors, je vais commencer par ça, puis après, peut-être je vais y arriver. Il y a un texte pali du canon ancien qui s'appelle Visuddhimagga, le chemin de la purification, qui parle de ce qui nous permet, qui parle donc des quatre pensées infinies d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité, et qui donne une explication sur comment les générer ces pensées, ces attitudes, et comment les maintenir. D'accord? Et dedans, il parle d'un moyen qui s'appelle l'utilisation de l'ami cadeau. L'ami cadeau, c'est quelqu'un qui arrive dans notre vie inopinément. Et cet ami cadeau ne doit pas être quelqu'un qu'on connaît et que l'on apprécie, ne doit pas être quelqu'un qu'on connaît et qu'on hait, ne pas être quelqu'un pour qui on est indifférent. C'est quelqu'un qui est complètement extérieur à notre vie. Par exemple, on prend le train, on est dans un compartiment, il y a une personne qui arrive, et la description de cet ami cadeau dans le Visuddhimagga, c'est une personne qui rit d'abord et qui parle ensuite. Et donc cette personne, dans la rencontre comme ça inopinée, courte puisque c'est sur un voyage, éveille en nous la bonhomie, la bonne humeur, la joie de vivre. En quelque sorte, il allume en nous ces qualités qui sont les nôtres, mais qui n'étaient pas encore éveillées parce que les conditions de leur éveil n'étaient pas encore apparues. Et donc, il fait s'élever en nous alors la joie, la compassion, l'amour, etc. et puis il disparaît de notre vie. Et on ne le reverra jamais. Hein, c'est la chanson de Brassens, Les Belles Passantes. Hein, bon, c'est quelque chose qui, à un moment, fait s'élever de l'amour, etc. Et puis après, disparaît de notre vie. Quoi. Et donc la question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Et alors, le Visuddhimagga nous explique, il faut revivre l'expérience. C'est-à-dire, il faut se replacer dans le train, dans le voyage, revenir, revoir cette personne. Et cette personne, comme un briquet, allume à nouveau en nous la joie, la compassion, l'amour, etc. Charge à nous d'entretenir ce feu en mettant du petit bois, en mettant, etc., et de le garder. Et donc, c'est dans la voie tibétaine, c'est ce qu'on appelle le guru yoga. Ce moment de rencontre complètement inattendu, hors limite, etc., où l'esprit de cet être authentique percute notre esprit éveillé dont on était totalement inconscient et qui a une espèce d'embrasement, on peut le reproduire. Ça a été ritualisé même. Hein. Donc, on invite devant soi le maître qui représente là vraiment la nature éveillée. Hein, c'est indissociable, c'est pas la personne qui compte. Finalement, la personne n'est qu'un, c'est un, comment dire, un moyen, un médium pour faire que l'esprit se reconnaisse. On l'invite et on retourne à ce moment, à cette expérience. Et quelque part, en notre esprit, on réanime, on réenflamme cette expérience et on y reste et on s'établit. Et c'est la façon de procéder lorsque l'on est à distance, parce que sinon, à l'inverse, on risque d'identifier la personne comme étant la source de notre réalisation. Ça, c'est le plus grand danger dans cette relation. C'est-à-dire que la personne devient la clé de mon bonheur. Et ça, là, c'est vraiment là une forme de dépendance. Normalement, quand quelqu'un qui est dans cette position voit le disciple aller vers cet attachement, cette exclusivité, il faut mettre de la distance, etc., etc. Il faut vraiment, vraiment calmer cette ardeur-là. Parce que ça mène vraiment à la possessivité, la jalousie. Si quelqu'un d'autre regarde mon maître spirituel, donc qui me prend de son temps, qui pourrait m'être accordé, etc., on est carrément un junkie de la bénédiction, là. Et on est addict, mais profondément. Il faut vraiment... Ça, c'est grave. C'est très, très grave. Alors, si en plus, finalement, on est avec quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, on est en relation avec quelqu'un qui peut être facilement embarqué, parce qu'il n'y a pas une stabilité profonde, d'accord ? Là, on va commencer la danse de la codépendance. Hein. Cours après moi que je t'attrape, fais-moi mal, non merci, etc. quoi. Et donc là, tout le monde glisse doucement vers la souffrance infinie. Hein. Donc, il faut quand même très alerte, très, très, très vif. L'admiration qui n'est pas égocentrée, c'est vers ça qu'il faut aller. Admiration, en revenant au latin, admirar, c'est-à-dire regarder vers. Hein, c'est regarder vers quelque chose qui est un modèle dont je peux m'inspirer. Je ne vais pas forcément être cette personne, ça n'a aucun sens, mais il y a quelque chose là qui va m'inspirer, qui va m'aider à me retrouver. Ça, c'est l'admiration. Et après, il y a l'adulation. Et l'adulation, c'est ça confine au culte de la personnalité, on veut l'exclusivité, donc il y a les jeux de pouvoir autour du maître, moi je suis le préféré, enfin, comme les enfants parfois peuvent être avec les parents. Quoi. Et donc ça, il faut s'en méfier comme de la guigne. Hein.
Oui, donc ça, en fait, ça répond un petit peu à ma... deuxième question qui était comment on passe de la phase 2 à la phase 3, c'est-à-dire la phase où on a la relation avec le maître et qu'après on peut être tout seul en fait.
Autonome.
Et donc c'est un peu ce que vous disiez quoi.
Mais l'autonomie vient aussi de la maîtrise progressive des enseignements qu'on a reçus. C'est-à-dire que le dharma vient via une source. Alors, dans l'océan du sens définitif, le neuvième karmapa décrit les étapes et la métamorphose du gourou. C'est très intéressant. D'abord, c'est un maître de lignée qui incarne vraiment une transmission, une méthodologie, etc., etc. Et puis, ce maître de lignée nous permet, nous facilite l'accès et la bonne lecture, l'accès aux enseignements et la bonne lecture des enseignements. Et donc, après ça, le maître devient le mot, le verbe des enseignements, quelque part, au-delà du savoir livresque, hein, fait écho avec, à l'expérience qu'on a reçue dans la relation au maître de lignée. Donc, le lama maître de lignée, le lama en tant que texte de la tradition authentique, que l'on sait lire et que l'on lit avec notre intelligence et notre expérience. D'accord. Après, en fait, on s'aperçoit que ce savoir et cette expérience, elle est véhiculée par tout ce qui nous entoure. Donc, la manifestation, l'eau nous rappelle la fluidité de l'esprit, la terre nous rappelle la solidité de la méditation, l'espace nous rappelle la nature de l'esprit. Donc, tous les éléments, en quelque sorte, nous rappellent ou nous renvoie aux qualités de l'éveil, aux qualités du dharma. Donc, on lit le dharma au travers de tous les phénomènes. Donc, les phénomènes, la manifestation devient le lama. Hein? Et à la fin, on voit que tout cela, on réalise que tout cela s'élève de l'esprit et est perçu par l'esprit. Et donc, le lama devient l'esprit, ou l'esprit est perçu comme étant le lama. Et donc, la distinction entre lama et disciple cesse d'exister, la frontière, la division se résorbe. Et donc ça, c'est l'évolution dans la relation au lama. Donc dans l'océan, bah, vous avez étudié hein, ce texte, l'océan du sens définitif avec Lama Tsutrum. Donc vous avez certainement lu ça. Et c'est important de comprendre ça. Parce que sinon, moi, je vois trop de gens qui, finalement, tombent dans une espèce d'adulation. Hein, et on va bien sûr le grand maître ceci, le grand maître cela. Je me souviens d'une femme qui parlait avec Lama Gindun et qui disait ah, moi, mon lama, c'est Lama Sonam. Lama Sonam, c'est la première génération. Il est en retraite à Mahamudraling au Bost avec Lama Lekche depuis Mathusalem. Et donc, Lama Gyanen Rinpoche lui dit ah, t'es maligne, toi, parce que t'as pris un lama qui est en retraite que tu verras jamais. Il ne va pas te remettre en place. Tu as fait le bon choix, tu es bien sécurisé. Quoi.
Oui, en fait, ce que tu viens d'évoquer, là, ça vient me faire percuter quelque chose. Tu as dit tout à l'heure, effectivement, la nécessité presque absolue de la transmission par la lignée. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment la lignée met vraiment en exergue les trois joyaux. C'est-à-dire qu'à travers la lignée, on perçoit l'enseignement donc, du dharma, la perspective du Bouddha, hein, de cet éveil. Et puis l'assemblée vertueuse aussi, donc. Et ça me fait penser, ça évite beaucoup d'écueils. Mm-hmm. Ça évite beaucoup d'écueils puisque la lignée, donc elle est là, l'assemblée vertueuse, donc elle est là pour. On a la diversité en fait des enseignants. Mm-hmm. Donc avec notre propre affinité, on va pouvoir aller soit vers un lama, soit un autre, avec notre karma aussi. Hein. Et puis on a cette perspective de l'éveil quoi. La lignée c'est ça et à travers mon expérience personnelle je m'aperçois que finalement le maître c'est pas un maître unique c'est le maître qui se fonde en dharma quelque part et avec un rayonnement de l'assemblée qui est autour quoi. Donc voilà, donc le maître, finalement, c'est à la fois quelqu'un qui est de chair, mais c'est aussi quelqu'un qui est de lumière à travers l'éveil. Donc, voilà, c'est ce que ça m'évoquait, en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une ligne en tibétain qui dit Lama Sanje Lama Che, Lama Deshin Gendun Te. Le maître est le Bouddha, le maître est le Dharma, et de la même façon, le maître est la Sangha. Donc, l'esprit du maître, c'est le Bouddha, la parole du maître, c'est le Dharma, et la présence du maître, c'est l'assemblée des amis vertueux. Et de cette façon-là, effectivement, Shaman Boji disait. Si vous voulez choisir un maître, vous êtes dans cette espèce de frénésie de choisir un maître. Hein, il faut un maître, il faut un maître. Il dit, bah, prenez le Bouddha. Il n'y a pas de risque. Hein, si on vous demande quel est votre maître, c'est le Bouddha. et donc, ce que je suis, bah, c'est ce qu'il a dit, que l'assemblée des amis vertueux a transmis, etc. Quoi. Mais c'est ça, c'est là où c'est un petit peu difficile, une arme à double tranchant, parce qu'il y a à la fois la présence et en même temps, comme tu dis très bien, la chair et la lumière, il y a la présence et en même temps, c'est pas quelque chose qui est géolocalisable. C'est-à-dire, le maître est là. Parce que ça, c'est une attitude un peu restrictive, infantile, qui a besoin de se raccrocher en disant le maître est là, ou c'est ça, cette personne. C'est beaucoup plus large que ça. Le maître, en ce sens, est protéiforme. Il a beaucoup de facettes variées parce que c'est le Dharmakaya, c'est le mode d'être absolu, d'où tout s'élève. Et parfois, des choses qui sont très, comment dire, hors normes, sont aussi des maîtres. Il y a une histoire d'un grand maître tibétain qui monte en haut du Potala à Lhasa et il passe par toutes les niveaux de la société, donc au plus bas, il y a les bouchers, etc., les marchands de viande, et puis on monte vers le Saint des Saints, le Potala, le Jokang, etc. Et ce grand maître, donc vraiment chef d'une lignée importante, et avec son entourage de moines, et etc., et il passe devant l'étal d'une bouchère, une femme qui entre, alors il y a du sang, hein, c'est pas la boucherie chez nous aseptisée, hein, c'est avec de la bidoche partout, etc. Elle entend trancher là-dedans la viande, elle est couverte de sang, etc. Et lui, il passe et il s'incline profondément devant elle. Et elle lui fait juste un petit signe de la tête comme ça. Et continue à partir, à marcher vers le Potala. Et tout le monde est... mais pourquoi vous avez fait ça, cette femme? C'est impur, une femme, bouchère. Et il dit, mais vous n'avez pas vu, c'est Vajrayogini... qui est en activité ici, c'est l'énergie de la félicité et de la vacuité qui est en action dans ce département-là particulier de la boucherie-charcuterie. Et lui, il est passé au-delà, par sa vision claire et de la situation, il est passé au-delà des apparences, alors qu'eux étaient encore très attachés à leurs apparences. Donc, le dharma, il est dans des coins bizarres parfois. Je vais vous donner un autre exemple pour finir, parce qu'après, on va aller manger. C'était un jeune garçon à Takpo, début des années 70, qui vient. Et bon, on se pose toujours la question, ce qui a fait que tu es arrivé ici, quoi. Et lui, il me dit, ah, mais le lama, il m'a pris par mon vice. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il n'avait pas envie de trop parler de comment il était venu, etc. Et puis à la fin, ça nous a quand même interpellé, donc on l'a serré de près. On dit, allez, vas-y, vas-y. C'était quoi ton vice? Parce que... il me dit, bah voilà, j'avais acheté, je sais plus, c'était un magazine genre Lui ou Absolu, et c'est un magazine pour hommes, avec au milieu une photo d'une femme nue, très belle, et puis pour aussi excuser ou donner un prétexte, il y avait toujours un article de fond sur un sujet société intéressant, etc. Et lui, il avait acheté donc ce magazine-là, à l'évidence pour la photo centrale, mais il y avait dedans un reportage sur Dakpo et des photos de la Magendune. Je t'assure. Donc le gars avait placé un reportage sur Dakpo, enfin l'Androvie, avec une photo de la Magendune, et lui, il était là, page centrale, page la Magendune, page centrale, page la Magendune. Oh, bon, celle-là, je ne vais pas l'approcher, c'est sûr. Mais là, oh, c'est intéressant. Donc, le gars s'est retrouvé là grâce au magazine pour gentleman, comme on dit, qu'il avait acheté. Donc, tu vois, les voies du dharma sont impénétrables. Mais à partir du moment où on voit ça, on est, parce qu'on aurait pu dire, ah, mais quelle honte, pas honte, il aurait pu cacher son secret misérable. D'ailleurs, il a essayé, mais nous, on a essayé de le savoir. On s'aperçoit qu'effectivement, on peut développer une sorte de vision un peu plus claire et plus pure, se dire que au-delà du pur et de l'impur, il y a une réalité qui dépasse cette dualité. Si l'on sombre de l'attachement à l'un comme à l'autre, on va dans un extrême. Et donc, la transcendance des extrêmes, c'est de voir qu'il y a une réalité qui est à la fois au-delà et en même temps qui anime tous ces phénomènes, qui est au cœur de tous ces phénomènes. Et donc, fondamentalement, ça c'est l'approche du grand sceau, il n'y a rien en soi qui soit à rejeter, parce que tout n'est qu'apparence. Ça peut apparaître pur ou impur, mais au-delà des apparences, il y a une réalité qui est la réalité de l'éveil. Et le dharma qui est le doigt qui montre la direction, qui pointe la lune, eh ben, le dharma, il est dans toutes ces choses, pour autant qu'on sache le lire. Et c'est pour ça que le maître de lignée est important, parce qu'il ou elle nous permet de lire correctement les textes et de lire correctement le monde. Et donc à ce moment-là, le dharma devient, est en fait, apparaît à nos yeux comme étant omniprésent. Et là, à ce moment-là, on a gagné en liberté. Et c'est là où on n'a plus besoin forcément d'être avec le maître, parce que le maître est partout. Et in fine, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'esprit qui s'enseigne lui-même, c'est l'esprit qui se montre à lui-même la voie et qui se conduit à l'auto-réalisation. Mais ça, c'est quand même c'est l'étape avant l'éveil. Donc, voilà. Bien, eh ben, on va aller déjeuner. Et puis avant ça, on va partager les quelques qualités de cette matinée. Par cette vertu, le grand sceau promptement réalisé, tous les êtres sans exception, en cet état, puissions-nous l'établir. Par ces bienfaits, puisse l'omniscience être obtenue et les ennemis funestes vaincus, des flots troublants de naissance, vieillesse, maladie et mort, de l'océan des possibles, ceux qui errent, puissions-nous délivrer. Merci. Ce soir, on se retrouve si vous voulez. Hein, et j'aimerais que ce soir, on parle du cœur du sujet, qui est l'esprit et l'esprit d'éveil, avec ses deux facettes de bienveillance et de discernement de sagesse. Et comment on peut vivre ça, pas simplement sur un coussin, mais aussi dans tous les aspects de notre existence, ce qui fait que aucun moment de notre existence est hors contexte et hors Mahamudra. C'est une intégration. D'accord? Donc vous réfléchissez à ça et puis on se retrouve. Voilà. Bon appétit. Merci. Au revoir.
Bonne journée à
Merci,
tous.
Sadie. Vous.